Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une école sur 10 fermée aujourd'hui à Marseille. Une fois encore, ce sont les 35 heures qui bloquent. L'opposition qui dénonce un bouclier électoral après les annonces de Jean Castex. Et puis 5 personnes interpellées après les incidents lors du match OM Galatasaray. Nous irons sur place.
Juste après le journal, vous en avez pris l'habitude, on décrypte, on débat. Et comme chaque jour, deux sujets, la fin du mystère du Grélé, l'un des plus anciens cols de caisse de la police parisienne. 35 ans après les faits, celui qui a tué la petite Cécile Bloch a été identifié. Il s'agit d'un ancien gendarme passé ensuite dans les rangs de la police. Et à 12h50, on reviendra sur le procès Big Malion et Nicolas Sarkozy. Est-il vraiment victime de ce qu'il appelle un harcèlement judiciaire?
C'est justement notre question du jour sur RTL.fr et vous dites oui à 50%, non à 45%. La météo. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Bon, comme prévu, la pluie revient par l'ouest.
Oui, ça y est, elle est là, elle est présente en ce moment déjà des Pays de Loire jusqu'au Hauts-de-France. Alors ça, c'est une première salve. Le plus important, ça va surtout nous tomber dessus au cours du week-end. Ces pluies vont un petit peu se disloquer en rentrant dans les terres, ce qui veut dire que dans l'est et dans le sud, l'après-midi sera de toute façon bien ensoleillé, même si le soleil sera un petit peu voilé au fil des heures entre les Pyrénées et la Lorraine. Les températures, ça remonte un petit peu, alors pas beaucoup, oui, pas très vite. 17 degrés à Brest, à Lille, à Paris cet après-midi, 19 à Metz et Aurillac, 20 degrés pour Dijon, 21 à Bordeaux, 23 degrés à Perpignan et 27 à Marseille.
Et programme complet de notre week-end à 13h. À tout à l'heure. Oui.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc Marseille. Après les éboueurs, c'est au tour du personnel des écoles de faire grève. 43 établissements sont ce matin fermés. Ça fait presque une école sur 10, ce n'est pas rien. Une fois encore, Étienne Baudu, c'est le passage aux 35 heures pour les personnels municipaux qui coincent.
Oui, une grève à l'appel du seul syndicat CGT des territoriaux de la ville de Marseille. Marseille, hein, seulement. Dans le viseur du syndicat, des préoccupations donc similaires à celles des éboueurs, à savoir une réduction du temps de travail pour les agents en poste dans les écoles et les crèches pour prendre en compte, c'est leur revendication, la pénibilité de leur métier. Ce sont les tatas, comme on les appelle ici, hein, qui accueillent le matin les enfants, qui font le ménage et qui se chargent de la cantine. La CGT réclame donc une dérogation à la règle générale des 35 heures, ce que permet la loi, à charge aux collectivités de négocier. Alors du côté des parents, certains comprennent le mouvement, hein, et les revendications, même si évidemment ce n'est pas très pratique. Florian a gardé ses enfants chez lui, là où il travaille.
Les enfants sont présents avec moi pendant que je bosse et on fait comme on a fait pendant le Covid, mais c'est pas extrêmement pratique. Ce qui serait appréciable également, ce serait d'avoir un communiqué sur les revendications, sur les raisons de la grève, en même temps qu'on ait l'avis de fermeture des écoles. Ça, ce serait peut-être pratique.
Et la mauvaise nouvelle, si c'en est une pour certains, j'imagine, c'est que le préavis de grève déposé commence aujourd'hui et court jusqu'au 31 décembre.
Effectivement, ça fait loin. Étienne Baudieu à Marseille pour RTL. Le conflit des éboueurs, lui, est en passe d'être résolu. FO, le syndicat majoritaire, ayant trouvé un accord avec la métropole. Et puis concernant les fermetures de classes pour cause de Covid cette fois, sachez que la baisse se poursuit. On est aujourd'hui à 1692 classes fermées contre 2366 il y a 7 jours.
Les associations de consommateurs plutôt satisfaites ce matin après les annonces hier de Jean Castex.
Le bouclier tarifaire devrait, disent-elles, permettre de lisser la hausse et soulager au moins un peu les ménages les plus fragiles. Écoutez François Carlier, c'est le président de la CLCV.
Il y a une attention qui est positive, notamment sur l'électricité. C'est un geste qui fait économiser une grosse centaine d'euros quand même à chaque Français. Plutôt pas mal. Sur le gaz, c'est un peu plus incertain parce que déjà, en fait, une bonne partie des hausses sont enregistrées, y compris celle de cette semaine. C'est juste la dernière hausse qu'il reporte au mois d'avril, une fois que le chauffage est passé. Mais on aurait voulu un geste plus global, comme une baisse de la TVA.
Des propos recueillis pour RTL par Valentin Boissé. Côté politique, l'opposition dénonce un bouclier électoral. Écoutez Mathieu Orphelin, ex-LREM et député écologiste du Maine-et-Loire.
C'est quand même un peu gros. Mais surtout, ce qui frappe, c'est que le gouvernement n'arrive toujours pas à anticiper, à accélérer la transition écologique. Ce genre de réponse à la petite semaine, je crois que ça répond pas du tout à ce que devrait être l'État, c'est-à-dire un État stratège, un État qui accompagne les foyers dans la baisse de leur consommation et dans la maîtrise de leur pouvoir d'achat. Et donc les annonces d'hier, clairement, elles sont à visée électoraliste, elles sont en trompe-l'œil, et elles sont dans tous les cas absolument pas suffisantes.
Mathieu Orphelin, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. C'est dans ce contexte qu'entre aujourd'hui en vigueur la réforme de l'assurance chômage. Plus d'un million de personnes sont concernées. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Concrètement, qu'est-ce qui change ?
Si vous perdez votre emploi à partir d'aujourd'hui, vos droits vont être calculés différemment. Et plus vous aurez eu des contrats à trous avant le chômage, plus vous serez concerné. Je vous donne un exemple. Bertrand, coiffeur au SMIC, qui a enchaîné plusieurs CDD. Il a travaillé 8 mois depuis 2 ans. S'il pointe au chômage maintenant, il aura 646 euros par mois pendant 14 mois. Maintenant, le même Bertrand, s'il s'était inscrit à la rentrée avant la réforme, il aurait eu 340 euros de plus tous les mois. Ça lui aurait fait une allocation de 980 euros pendant 8 mois. Donc vous voyez, ça peut faire quand même de sacrées différences. Alors, ces énormes variations ne concernent pas tout le monde. Un demandeur d'emploi qui perd son travail après avoir été en CDI pendant plusieurs années à 2000 euros brut par mois, par exemple, n'aura aucune différence d'allocation entre une inscription avant et après la réforme.
Merci beaucoup Anaïs pour ces explications. Dans l'actualité également, le sentiment partagé des proches des victimes de celui qu'on a longtemps appelé le grêlé. Le meurtrier de la petite Cécile Bloch, assassinée en 1986 à Paris, a enfin été identifié 35 ans après les faits. Un ancien gendarme, policier à la retraite, retrouvé suicidé dans le Gard cette semaine. Maître Corinne Herman est l'avocate de plusieurs victimes, dont le frère de Cécile Bloch.
Leur réaction, c'est le soulagement d'avoir enfin une réponse, d'avoir enfin une identité et surtout la satisfaction de se dire qu'ils ne vont pas le croiser ou qu'il ne va pas s'en prendre à eux sans qu'ils le reconnaissent, qu'il ne va pas continuer à œuvrer, qu'ils ne vont pas apprendre de nouveaux crimes. Et puis ensuite, quand même la déception, la frustration de ne pas pouvoir obtenir des explications de cet homme et de ne pas pouvoir l'affronter dans un procès. Mais c'est d'abord le soulagement qui prévaut.
Maître Corinne Herman au micro RTL d'Alice Moreno. 35 ans après, même certains proches des victimes n'y croyaient plus. Comment ça s'est passé, Guillaume Chies ? Comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à cet homme ?
Eh bien, la juge d'instruction qui a repris les dossiers fin 2014 a voulu réexplorer une piste. Le grêlé peut-il être un policier ou un gendarme ? Plusieurs indices le laissent penser. D'abord, sur certains crimes, le grêlé a montré une carte professionnelle des forces de l'ordre. Il a également utilisé une paire de menottes. Et puis, il y a une de ses victimes qui a survécu. Il a expliqué qu'il était un ancien de la gendarmerie. La juge d'instruction a donc pris une décision radicale fin août, convoquer environ 750 gendarmes qui étaient en poste en région parisienne lors des meurtres du grêlé pour les interroger et surtout prélever leur ADN. Cette convocation, l'homme de 59 ans qui avait refait sa vie dans le sud de la France l'avait reçu. Il devait s'y rendre avant-hier, acculé, sentant qu'il ne pourrait pas se dérober. Cette fois, il s'est donc donné la mort.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
Et pour en savoir plus, nous serons tout à l'heure avec Bernard Pasqualini, qui était inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle de Paris en 1986.
Autre affaire, l'affaire Big Malion, et au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui, on le rappelle, a fait appel, Jean-François Copé était ce matin l'invité d'RTL. Celui qui était à l'époque patron de l'UMP et qui a été entendu comme témoin dans ce procès se félicite d'avoir retrouvé son honneur.
Au début, on avait démarré en expliquant que c'était l'affaire Copé, sans aucune preuve, avec un déchaînement de haine politique et médiatique absolument anormal. Et l'atterrissage de tout ça, c'est que c'est pas du tout l'affaire Copé, c'est l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.
Mais vous nous dites qu'on a donc détourné 16 millions sans que vous ne voyiez rien, et sans que vous ne puissiez vous douter de rien.
Bien sûr, parce qu'il y avait une forme de peur, en fait, de peur dans la relation qui pouvait exister entre un certain nombre de collaborateurs et Nicolas Sarkozy qui était candidat. Le sentiment de se dire, il faut pas qu'on en parle avec Jean-François Copé, parce que lui, il acceptera pas, et donc il va y avoir un clash terrible, et tout le monde avait peur de ça.
Jean-François Copé, invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Jean-François Copé qui assure qu'il soutiendra le candidat de son camp pour 2022, qui que ce soit. Et en la matière, eh bien, plus ça va, moins on y voit clair à droite. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Xavier Bertrand est dans une position de plus en plus délicate.
Eh oui, parce qu'à droite, Xavier Bertrand esquive le combat. Il ne veut pas affronter ses adversaires. Hier soir, il a même proposé un congrès de rassemblement. Une jolie formule, disons, pour appeler tous les candidats de la droite à s'unir FISA. Derrière qui ? Derrière lui, bien sûr, excite la compétition. Lui veut qu'un seul nom, le sien, soit soumis au congrès des militants LR pour acclamation, avec un seul argument, toujours le même, les sondages, où il bénéficie, c'est vrai, d'une légère longueur d'avance. Mais pour ses concurrents, c'est un peu court. Il est culotté, dit un député soutien de Valérie Pécresse. Il a à 3 points d'avance. Ce n'est pas avec ça qu'on peut s'auto-proclamer champion de la droite. Inenvisageable aussi dans les équipes de Michel Barnier, l'homme qui n'en finit plus de monter chez LR. D'autant qu'un sondage interne lancé par un député LR donne Barnier en tête d'un éventuel congrès. Bref, à droite, la situation paraît totalement bloquée. Un pécriciste griffe. Ne cherchez pas le coupable. Il s'appelle Xavier Bertrand.
Marie Mollet du service politique d'RTL.
À Marseille, 5 supporters ont été interpellés hier soir après les incidents lors du match Marseille-Galatasaray.
La rencontre a été interrompue pendant 8 minutes après ça. Sous les yeux de la ministre des Sports, Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL. On a vu des supporters tenter par tous les moyens de forcer le dispositif de sécurité.
Ouais, c'est vrai, des supporters qui grimpent sur les grilles ou sur les filets de protection du stade, qui menacent de passer dans la tribune d'en face. Heureusement, ça n'a pas été le cas, car le dispositif de sécurité, certes malmené, les a finalement contenus, que ce soit les CRS ou les nombreux stadiers, comme Sébastien qui était posté à l'entrée.
On a trouvé un couteau sur un supporter qui voulait en fait user ce couteau contre un agent. Ben après, c'est au niveau de palpation que le boulot n'était pas fait.
Comment t'expliques qu'il y a autant de pétards, de fumigènes qui arrivent à rentrer?
C'est quelque chose qu'ils arrivent à rentrer avant le match où on n'est pas assez déjà. Il y a des moments quand ça rentre en force. Plusieurs groupes qui essaient de rentrer 10, 15, tu peux pas l'arrêter.
Ça arrive souvent ça?
Pas souvent, mais ça arrive.
Voilà, des passages en force, jets de pétards, fumigènes sur la pelouse. On a même vu des provocations politiques, puisque les ultra-marseillais ont exhibé des drapeaux arméniens et kurdes. C'est désormais l'UEFA, l'instance européenne, qui va décider de très probables sanctions.
Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL. Merci à vous, Hugo.
Dans une seconde, le premier débat. En tout cas, on va en savoir davantage. La fin du mystère du grêlé, l'un des plus anciens cold case de la police parisienne. On sera avec Bernard Pasqualini, qui était à l'époque inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle de Paris en 86.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On n'a toujours pas trouvé l'assassin de Cécile, cette petite fille de 11 ans, découverte lundi au début de l'après-midi au 3e sous-sol du parking de l'immeuble dans lequel elle habitait, dans le 19e arrondissement de Paris, près de la Porte des Lilas.
Et ça, c'était en 1986. L'affaire Cécile Bloch faisait la une du journal d'RTL. 35 ans plus tard, ça y est, enfin, fin du mystère, le meurtrier présumé de la fillette, le grêlé comme on l'a appelé, a été identifié. Il s'agit bien, les analyses ADN l'ont confirmé, de François V, un ancien gendarme, passé ensuite dans les rangs de la police et qui s'est suicidé cette semaine dans le Gard. Bonjour Bernard Pasqualini.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct sur RTL. À l'époque, en 1986, vous étiez inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle de Paris. Cette affaire, on l'a beaucoup dit ces dernières heures, c'est l'une des plus vieilles affaires non élucidées de la police parisienne. Est-ce que vous, l'ancien inspecteur divisionnaire de l'époque, vous pensiez qu'un jour, on allait enfin mettre la main sur cet homme?
J'espérais. Je pense que c'est la plus ancienne affaire de la préfecture de police, mais comme je savais qu'on continuait à travailler sur ce dossier, j'espérais qu'un jour, une bonne nouvelle comme celle qui est arrivée hier tomberait et on pourrait avoir la solution de cette affaire.
C'est ça qui est fou, c'est que 35 ans, c'est bien sûr extrêmement long et c'est rarissime que les enquêteurs, que la justice aussi, continuent à travailler si longtemps comme ça. C'est d'abord de la persévérance?
C'est de la persévérance, c'est du professionnalisme, de l'opiniâtreté. C'est rien d'étonnant. Tout le monde s'est passionné. Moi, je suis parti au bout de 5 ans. J'étais chef de groupe, donc j'ai été remplacé. Et on continue donc à traiter ce dossier qui, même pour la justice, avait fait l'objet d'un classement, d'un non-lieu. Et comme à la brigade criminelle, on gardait toujours un double du dossier d'enquête, on pouvait à tout moment faire des vérifications sur des rapprochements sur d'autres affaires, ce qui nous avait permis effectivement de révéler d'autres affaires qu'on pourra aujourd'hui imputer à ce personnage.
Cet homme s'est suicidé, il a laissé une lettre.
Oui, alors là, je n'ai pas d'éléments, moi, hein, parce que j'ai décroché, je suis retraité depuis 2018 en plus, donc j'avais quelques contacts avec des collègues, mais le temps passe, et puis, donc je n'ai aucune information sur ce qui a été découvert et qui est cet individu.
Et vous êtes surpris de savoir que c'est un ancien gendarme, ancien policier aussi. Est-ce que c'est pour ça?
Non,
que...
c'est pas ça qui m'a surpris, moi, parce qu'il y a déjà eu des anciens gendarmes, des anciens policiers qui ont été meurtriers. Non, ce que je comprends maintenant, c'est que certaines questions que l'on se posait, nous, les enquêteurs, on trouve une réponse. Dans ce parcours professionnel.
Lesquels?
Les faits s'arrêtent en 97. Et en 97, 98, 97, c'est là que l'ADN fait son apparition sur le marché, entre guillemets. Mm. Voilà. Ce type-là étant dans
le
milieu...
Donc il est renseigné, c'est ce que vous voulez dire?
Il s'est renseigné, disons que dans le milieu...
Et il arrête
dans
de tuer parce qu'il sait que l'ADN va parler.
Voilà. C'est ce que je pense qu'il s'est passé, quoi. Parce qu'on s'expliquait pas. Enfin, les collègues, moi, je n'avais plus le dossier en titre, mais quand je les voyais, quand on en discutait, c'est pour ça que beaucoup de gens disaient « il est mort ».
Dans cette affaire, il y a l'ADN, bien sûr, qui finit par parler, puisque vous avez donc cette trace ADN, mais une fois qu'on peut faire les comparaisons, ça ne matche avec aucune personne qui est dans les fichiers. Il y a aussi cette histoire, cette intime conviction, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais qu'entre la carte professionnelle qu'il pouvait montrer, on avait parlé d'une arme aussi à une époque.
Austère, oui, puis une attitude. Alors tout ça, cette partie de l'enquête, je ne l'ai pas connue, moi, mais je savais qu'effectivement, les collègues basculaient aussi sur la possibilité que ce soit... un ancien policier, un ancien gendarme, un ancien militaire, par rapport à des commentaires que ce type-là avait fait à des jeunes femmes. Donc voilà, c'était une hypothèse aussi sur laquelle il travaillait.
Il ne sera jamais jugé puisqu'il s'est suicidé. C'est important malgré tout de savoir qui c'était.
Ah ben absolument, oui. Et puis de refaire son parcours. Parce que bon, il y a peut-être, on a essayé de faire un maximum de rapprochements à l'époque, mais est-ce qu'on les a tous fait? Est-ce qu'il y a d'autres affaires? Quand on voit le nombre d'affaires qui ne sont pas solutionnées, ça mérite effectivement de revoir un peu tout ça.
Merci monsieur Pasqualini. Je rappelle que vous étiez inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle de Paris en 1986 au moment des faits. Notre deuxième débat, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il est victime d'un acharnement judiciaire? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On a le sentiment que le couperet tombe très régulièrement sur la tête du président Sarkozy. À chaque fois, quand il s'agit de Sarko, les juges sont plus sévères que les procureurs.
Nicolas Sarkozy, il n'est pas ni au-dessus ni en dessous des lois françaises. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir le sentiment que son traitement n'est pas toujours celui d'un quidam.
Depuis hier et la condamnation de Nicolas Sarkozy, ses proches montent au créneau pour dénoncer en deux poids deux mesures un acharnement judiciaire. Alors l'ancien président est-il vraiment injusticiable comme les autres? Les magistrats sont-ils ou non plus sévères avec lui? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Evelyne Sirmarin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Quand vous entendez les proches de Nicolas Sarkozy, comme on vient de l'entendre, dire « on s'attaque toujours à lui, c'est plus fort sur lui », ça vous fait bondir, j'imagine?
Bondir, c'est un bien grand mot. Je suis magistrat honoraire. Donc, je crois que depuis les années 90, en fait, souvenez-vous, Eva Joly, Renaud Van Rebeek, Laurence Linchetsky, enfin bref, depuis les années 90, il y a un vrai mouvement, en fait, des magistrats financiers pour traiter la délinquance financière qui crée énormément de préjudices, notamment au trésor public, comme la délinquance de droit commun. Donc, et on assiste parallèlement à un certain nombre d'affaires. Je pense à, depuis 1994, les campagnes électorales de M. Balladur, par exemple, où la Cour de justice de la République a condamné M. Léotard à 2 ans avec sursis, relaxé M. Balladur. Et puis ensuite, on a 2007, la campagne de Nicolas Sarkozy, le financement libyen, affaire en cours, hein, où il est mis en examen. Et puis on a 2012, on a cette affaire Big Malion, beaucoup d'argent quand même, hein, 20 millions de trop. Dépensés par rapport aux fonds publics.
Non mais c'est entendu, mais ce qui jette le trouble...
Il y a énormément d'affaires, donc c'est pas
entendu,
les magistrats.
Madame Sirmarin, mais ce qui jette parfois le trouble...
C'est les affaires.
Ce qui jette parfois le trouble, c'est lorsque le syndicat de la magistrature appelle à ne pas voter Nicolas Sarkozy en 2007. Ce qui jette parfois le trouble, c'est quand, dans le canard enchaîné, une information sort contre François Fillon et qu'il est mis en examen 24 heures plus tard. Ce qui jette parfois le trouble, c'est le mur des cons avec épinglé Nicolas Sarkozy. Comprenez qu'aujourd'hui, on se dit, la magistrature règle ses comptes avec la droite et parfois même avec Nicolas Sarkozy.
Oui, mais enfin, les affaires, ce que j'essayais de dire, c'est qu'elles ont une réalité, c'est énormément d'argent.
Mais ce que je dis aussi a une réalité, que le syndicat de la magistrature a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si c'est le rôle du syndicat de la magistrature, Madame Sirmarin.
Mais non, mais là, c'est pas le syndicat de la magistrature qui a jugé.
Nicolas Sarkozy au point de proposer de ne pas voter pour lui.
Mais voyez, vous vous fixez sur cette affaire.
Ah ben, et pour cause. Et pour cause. Ce n'est pas rien quand même.
Oui, mais à partir du moment où ce n'est pas le tribunal qui a rendu cette affaire, que je sache, c'est pas le tribunal constitué par le syndicat de la magistrature. Ce sont des collègues tout à fait indépendants. Et ce n'est même pas le parquet financier qui est accusé, lui aussi.
C'est pourquoi j'ai dit que ça jette le trouble.
Pascal, Evelyne Sirmarin, juste une petite seconde. On a Thomas Proutot, le chef du service police-justice d'RTL, qui est aussi avec nous en studio. On va faire un petit vrai-faux avec vous, Thomas. Les juges vont plus loin que les réquisitions avec Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'ont dit certains de ses proches hier. C'est vrai ou c'est faux?
Alors ça, c'est faux. En fait, c'est 50-50. Je m'explique, Nicolas Sarkozy n'a été jugé qu'une seule fois jusqu'ici. Enfin, deux fois avec le procès d'hier. La première fois, c'était pour corruption dans l'affaire dite des écoutes, en mars dernier. Le parquet avait requis 4 ans, dont 2 fermes. Résultat, 3 ans, dont 1 ferme, donc en dessous des réquisitions.
Il y en a d'autres qui disent, pas normal de mettre une peine maximale, la peine maximale, quand on a un casier judiciaire vierge.
Alors c'est ça, c'est une sortie qui a été due hier à Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Nous avons donc demandé à des constitutionnalistes, avocats et magistrats. Eh bien, il n'y a rien de tel dans le code pénal ni dans la jurisprudence. Les réquisitions du procureur sont une indication, un avis. Le tribunal fait bien ce qu'il veut. On peut quand même ajouter deux choses. C'est vrai que pour un primo-délinquant, Nicolas Sarkozy est un primo-délinquant, il n'a jamais été condamné. On fait toujours attention avant de mettre la prison ferme, évidemment, que ce soit justifié. Dans ce cas-là, ça a été justifié par la gravité de la faute. Ça peut être débattu, mais c'est comme ça que ça a été estimé. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis de la prison ferme.
Evelyne Sirmarin, je reviens vers vous. On peut quand même convenir que les relations entre Nicolas Sarkozy et les magistrats ont toujours été tendues, compliquées.
Oh oui, bien sûr.
On se souvient des petits points.
Oui, mais bien sûr.
Et quelques non-lieux, faut-il le dire, dans l'affaire Bettencourt.
Monsieur Sarkozy a affaire à la justice. C'est pas fini. Il va y avoir l'affaire des écoutes, en appel.
Ça semble vous réjouir, madame.
Ah, pas du tout. J'essaye de citer, si vous voulez, objectivement les faits. Il va y avoir l'affaire des écoutes en appel, il y aura cette affaire Big Malion en appel, et il y a l'affaire en cours sur les financements libyens, donc la campagne de 2007, qui sera certainement jugée en 2022. Donc ça, c'est objectif. Donc je peux comprendre que M. Sarkozy n'apprécie pas du tout d'avoir affaire à la justice. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est que en fait, toutes ces affaires concernant M. Sarkozy arrivent dans toute une histoire politique qui fait que, d'abord, cette nouvelle génération de magistrats, je pense, qui appréhendent différemment et les questions terroristes et les questions de délinquance financière, sont certainement plus sévères, ça c'est sûr. Et puis,
Plus partisane peut-être, lorsque vous avez deux juges d'instruction, l'un, Van Ruynbeek, qui n'avait pas signé une ordonnance de renvoi, et puis l'autre qui avait signé une ordonnance de renvoi.
Justement, vous voulez ajouter
quelque
chose.
C'est justement exactement ça dont je voulais parler. C'est exact, c'est pas si simple, puisque Van Ruynbeek n'avait pas signé pour des questions techniques, des questions de profonde conviction, mais après, ça a été discuté par la Chambre de l'instruction, par la Cour d'appel, par la Cour de cassation, qui ont infirmé l'avis de Van Ruynbeek et qui ont considéré que Nicolas Sarkozy pouvait être jugé, ce qui a été le cas hier. Donc on est quand même sur, pas un magistrat, mais tout un ensemble de magistrats jusqu'au plus haut degré de la magistrature française.
Merci en tout cas, Madame Sirmarin, d'être venue au micro d'RTL. Et c'était intéressant de vous écouter. Je rappelle que vous êtes ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Merci beaucoup, Madame. Il est 12h59. Le rappel des titres avec Amandine.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.